Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
How dare you!
1, 2 et 3 degrés! C'est un crime contre l'humanité!
Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Chausse amère, l'émission sur tout ce qui concerne l'environnement et le changement climatique. Aujourd'hui, avec Lison,
Hello,
Alex,
Maëlie
et Aourou,
nous allons discuter écologie. La dernière fois, nous nous sommes intéressés aux petits colibris, mais cette fois-ci, parlons de gros animaux. Parlons pays, parlons géopolitique.
C'est bien sympa de parler d'impact environnemental, mais tous les pays ne sont pas sur le même pied d'égalité. Sur ce genre de sujet, on ne peut pas demander les mêmes efforts et les mêmes financements à des pays en développement qu'à des pays développés. On vous parlera donc aujourd'hui des différents rapports de force qu'il existe entre les diverses puissances mondiales et les pays moins considérés. Comme souvent, les pays développés exercent une pression sur ceux en développement. Il y a une nette différence entre ce qu'ils incitent à faire, ce qu'ils font et ce qu'ils devraient faire. Dix ans après les accords de Paris, où en sommes-nous? L'année dernière se passait la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Cette conférence sur les changements climatiques parlait du financement pour les pays en développement. Qu'en pensez-vous?
Du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur cette COP29. C'est celle du coup qui s'est passée du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan. On parlera de cette localisation, hein, c'est incroyable. Elle a pour le surnom surtout la COP de la finance. En fait, n'a été parlé que de financement. Personnellement, je trouve que c'est assez à double tranchant cette question de financement, surtout comment ça a été tourné. Là, je trouve qu'il y a une forme de pression en fait exercée entre les différents pays et en fonction de leur place politique, enfin de leur niveau politique plutôt sur la place mondiale. En gros, pour cette COP, ce sont 200 pays qui se sont réunis pour trouver un nouvel accord financier dans lequel, notamment, les pays riches se sont engagés à verser 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 contre les 100 milliards de dollars actuellement aux pays les moins développés pour les aider à la transition écologique. Pourtant, en fait, c'est une somme qui est estimée pas du tout suffisante. Le besoin des pays en développement serait bien plus élevé et atteindrait même les 1300 milliards de dollars par an. L'accord ne nie pas ce chiffre, mais il prévoit plutôt que les entreprises privées et les prêteurs internationaux couvriront ces centaines de milliards de dollars que ne donneront pas ces pays. Certains y voient alors une forme d'échappatoire des pays développés face à cet engagement qu'ils ont conclu.
Alors pour le coup, c'est assez simple, je trouve vraiment encore une démonstration de colonialisme et de la vision coloniale dont peuvent faire preuve les pays développés, justement parce qu'ils demandent à tout le monde de faire des efforts, de se serrer la ceinture là où eux-mêmes ne l'ont pas fait en leur temps. La plupart des pays en développement te disent que, enfin ils réclament justement ce droit à polluer pour pouvoir se développer comme l'ont fait tous les pays développés. Ils ont tous pollué en leur temps, que ce soit avec le charbon, le pétrole, le gaz ou d'autres moyens, afin de pouvoir se doter d'une industrie forte et d'améliorer leurs conditions de vie au global. Sauf qu'au vu de l'urgence climatique, les pays qui sont en retard et qui ont été en retard sur ces questions-là, on leur nie simplement cette possibilité en disant « bah non, on ne peut pas, la planète va trop mal, donc il faut que vous ayez des énergies qui soient plus développées, décarbonées, et ce qui est très compliqué à vivre pour eux ». D'où cet accord qui permet aux différents pays pauvres de se doter d'une énergie bas carbone sur un financement des pays riches, parce que justement c'est eux qui leur demandent de faire des efforts qu'eux-mêmes n'ont pas fait à ce moment-là.
Oui, je trouve qu'il y a une réelle hypocrisie un peu des pays développés, des pays qui sont puissants, qui s'affirment face aux pays en développement. On parle de néocolonialisme et c'est très vrai. C'est eux qui dirigent un peu les COP, tout ça, et qui donnent le mouvement en s'externalisant.
D'autant qu'on va être beaucoup plus clair et beaucoup plus précis, mais la COP, on a parlé de la COP 29, on pourrait parler de toutes les COP depuis la COP 21 et même celle d'avant. Elles sont juste un effet d'appel et un effet de... Enfin, c'est presque de la publicité sur une volonté politique de faire quelque chose là où c'est pas réellement le cas et là où le pouvoir n'est pas réellement détenu dans ces instances-là. Elles le sont à la limite sur d'autres réunions comme le G7, le G20 ou d'autres réunions, voire à l'ONU, même si on sait très bien les limites que peut avoir l'ONU, mais c'est pas trop au niveau de la COP que ça se joue. Et preuve en est que le niveau de lobbyiste que tu peux avoir sur ces événements et même l'image qu'ont ces événements, on va pas se mentir, mais on rappelle encore le scandale des jets sur la COP, les deux dernières COP.
oui, les COP sont vraiment pas prises au sérieux. Pour moi, c'est pour faire bonne figure et pour montrer une certaine puissance envers d'autres pays, etc. Et essayer de calmer l'opinion publique. Mais il n'y a pas de réel engagement derrière.
Oui, et je pense que ce qui est surtout aussi important à garder en esprit, c'est que les pays G20 émettent environ 4/5 de toutes les émissions de CO2. On a tendance, durant les COP, de vraiment se concentrer sur les pays en développement, mais c'est aussi les pays développés qui devraient vraiment prendre le recueil et échanger leur climat politique aussi plus rigoureusement. Et je pensais aussi citer une citation du délégué de la Bolivie, Diego Pacheco, parce que je pensais qu'elle résumait très bien, en fait, la COP. Diego Pacheco affirme que les pays développés veulent que nous respections le seuil de 1,5 degré de réchauffement, mais s'opposent à ce que les pays en développement aient les moyens de baisser leurs émissions. Cela souligne, je trouve, de nouveau un peu l'hypocrisie des pays développés.
Ah justement, en parlant d'hypocrisie, je trouve que la chose la plus marquante dans cette COP29, ça a été ne serait-ce que les moyens de transport utilisés par ceux se rendant à cette COP. C'est une enquête de Reporters et de Mémoire Vive qui ont analysé en fait les différents vols internationaux qui se sont rendus en Azerbaïdjan. Ils sont aperçus qu'en fait, on a plus de 150 jets privés qui se sont rendus en Azerbaïdjan durant cette période. C'est deux fois plus qu'habituellement. Nombre d'entre eux en plus étaient des avions de location, afin que ceux qui sont dedans se rendent intraçables et qu'on ne puisse pas savoir ni leur identité, ni le nombre de fois en fait qu'ils utilisent ce genre de transport. En plus, si on fait le total, sur ces 150 jets privés, leur vol représente une libération de 5760 tonnes de CO2 au total. Pour donner un ordre d'idée, ça équivaut à peu près à l'émission générée par an par 702 Français, en tout, avec juste des voyages. On va pas répéter, mais bon, le jet privé fait forcément partie de l'un des modes de transport les plus polluants de cette planète. Et en plus, si vous voulez tout savoir, ironie du sort, les participants accrédités à la COP29 disposaient d'un accès gratuit, à tous les transports en commun de Bakou.
Ça montre encore une fois bien l'hypocrisie, et oui, on est bien pour le climat, mais je veux bien prendre mon jet privé quand même pour aller à Azerbaïdjan.
Puis ils savent que c'est de plus en plus tracé par les médias, tous ces vols en jet privé. Ça montre vraiment ce que pensent les politiques derrière l'image. Il y a un moment, une députée, je crois que c'était Oudéa Castéra, qui avait fait un voyage en jet qui lui aurait pris le même temps en train et ça avait été énormément critiqué. Et c'est toujours ça. C'est toujours, c'est plus confortable. C'est contre l'environnement, mais franchement, si ça se sait pas, c'est tant mieux, quoi.
Et plus récemment, on peut faire aussi part des frasques de notre cher Premier ministre, qui lui-même a établi une nouvelle ligne et a forcé la création d'une nouvelle ligne Pau Paris pour pouvoir se rendre de Pau à Paris pour pouvoir exercer ses deux mandats, à savoir son mandat de Premier ministre et son mandat de maire de la mairie de Pau, puisque les Palois sont un peuple et éminemment important pour notre France, et comme il le dirait si bien, Pau, c'est en France.
Ça, je trouve que c'est too much, comme tu dis. C'est juste pour son plaisir personnel et son confort personnel, alors que ça n'a pas d'intérêt public.
Ce qui est d'autant plus aberrant, c'est qu'il faut savoir que c'est le genre de privilèges qui sont rattachés à la fonction de Premier ministre et qui font partie de ses droits. Et c'est là-dessus où il y a une question globale à se poser d'un point de vue mondial. Il n'y a pas une question à se poser seulement sur qui pollue, les entreprises, les États, les consommations, mais ne serait-ce que re-questionner même notre modèle de société. De se dire que c'est normal qu'un chef d'État ou qu'un quelconque fonctionnaire ou que même un chef d'entreprise ou que quiconque, pour une question statutaire, ait le droit de polluer plus que les autres, c'est aberrant. C'est déjà quelque chose qui ne devrait pas être possible et qui l'est totalement grâce à la construction sociale qu'on a actuellement. Et c'est là-dessus où j'aimerais bien revenir sur une idée assez portée depuis quelques décennies maintenant. Et je vais ouvrir ça avec une citation de Pepe Mujica, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui disait « La sobriedad es un lujo para poder ser libre ». Et donc, en traduisant, c'est globalement que la sobriété est un luxe qui nous permet de devenir libre. Et c'est vraiment cette apologie de la sobriété, non pas de la pauvreté, mais de la sobriété, de re-questionner tout ce qu'on fait et de se dire est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce qu'on en a vraiment besoin, et est-ce que c'est comme ça qu'on doit dépenser telle ou telle ressource, est-ce que c'est comme ça qu'on doit se comporter. C'est même pas une question de bien ou de mal, c'est juste, c'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire.
Et c'est bien cette question-là qui devrait être au cœur de toute écologie exercée, mais qu'on trouve malheureusement pas assez.
Mais c'est bien d'ailleurs le problème qu'on retrouve de plus en plus, c'est les deux points de vue majoritaires dans l'écologie. Il y a ceux qui suivent une doctrine de sobriété et ceux qui suivent une doctrine de technosolutionnisme, oui. Qui s'opposent toutes les deux. À savoir ceux qui te disent que par la technologie, on va réduire toutes nos émissions et tout va bien se passer parce qu'on s'améliore de plus en plus pour réussir à consommer moins, ce qui est une impasse. Et on l'a vu, enfin il y a plein d'exemples qui nous le montrent. On le voit notamment avec les voitures. Les voitures consomment de moins en moins. Chaque année, on a des moteurs de plus en plus performants et elles arrivent à consommer toujours plus. Pourquoi ? On a déjà un exemple assez simple et très facile à comprendre. Entre la 2 chevaux qui consommait 6 à 7 litres au 100 avec 200 kg de métal et les nouvelles voitures qui consomment toujours 6 à 7 litres au 100 avec des moteurs plus performants mais avec 1,5 tonne de métal à l'intérieur, tout de suite, c'est plus compliqué de déplacer beaucoup plus. C'est juste aberrant, on devrait se dire, bah non, la technologie n'est pas la solution à tout, puisque la preuve, ça n'améliore pas ces questions-là. On devrait déjà, avec les capacités qu'on a de nos jours, les moteurs et autres, pouvoir passer à une consommation moindre. C'est de là où vient le problème du technosolutionnisme, là où la sobriété est fortement critiquée, parce que pour beaucoup, c'est symbole de pauvreté ou de décroissance, et avec la saine croissance, ça casse beaucoup de choses, même nos modèles sociétaux au global.
Oui, parce que la bonne chose avec la technologie qui nous sauve et les nouvelles technologies innovantes, c'est qu'on peut se dire, on peut garder notre mode de vie, mais quand même être écologique. Et par contre, ça marche pas, parce que chaque nouvelle technologie, même si elle est sur quelques aspects mieux que d'autres, regardons par exemple la voiture, bah, elle pose à chaque fois quand même de nouveaux problèmes qui, du coup, derrière, demandent encore des résolutions. Alors que de changer son mode de vie, bah oui, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus contraignant et c'est beaucoup plus restreignant. Mais à mon avis, c'est ce qu'il faut faire.
Et c'est là où le propos que peut tenir Jean-Marc Jancovici, qui a des défauts sur ses propos, qui a des défauts sur sa pensée et qui parfois a de nombreux biais. Mais il a totalement raison sur le fait que la question principale, c'est vraiment une question de mentalité. Quelle mentalité ont les personnes et de se dire il ne faut pas voir une baisse de croissance et un avenir avec moins de possessions matérielles, moins de confort comme forcément un mal. C'est juste qu'on va trop loin sur certaines choses et qu'il faut vraiment qu'on se restreigne. La sobriété peut être bien vécue et peut être même souhaitable et désirable. Et sinon, la seule chose qui peut nous arriver, c'est de tomber directement dans la pauvreté parce qu'en fait, on n'aura pas voulu voir le mur venir. Et une fois qu'on tombe dans la pauvreté, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une société agréable et désirable et souhaitable que si on passe par la case sobriété et qu'on essaye de faire en sorte d'avoir le meilleur environnement possible avec le moins de pollution possible.
Après, si je peux me permettre, ça pour moi, ça revient à l'image de la COP qu'on avait eue. Parce que ce qu'on vient de dire, ce sont des réflexions d'un pays développé, d'un pays qui avait les moyens de faire cette transition, qui avait les moyens d'appliquer cette sobriété par choix. Et parce qu'on a voulu appliquer une sobriété à nos moyens de consommation, à notre façon de vivre. Et c'est-à-dire qu'on avait une alternative à ça. Excusez-moi, mais du coup, on va citer l'Inde. On peut pas leur dire « vivez dans la sobriété, c'est forcément mieux, ce sera mieux pour tout le monde ». Pour, comme tu avais dit déjà précédemment, ils ont besoin de s'en sortir, ils ont besoin de s'avancer sur la place politique, de se mettre en avant, et on ne peut pas leur demander la même écologie.
Néanmoins, il faut aussi faire comprendre aux pays développés qu'il faut aussi qu'ils payent la note pour ces nombreuses années de néocolonialisme et de profit sur le dos des autres pays. À savoir, il faut qu'on soit conscient qu'on ne pourra plus partir aux quatre coins du monde pour le simple plaisir de voyager ou avoir des vêtements qui viennent de l'autre bout du monde parce que c'est moins cher et que c'est tout aussi bien d'avoir de la fast fashion ou ce genre de choses qui, en fait, ne sont pas des modèles soutenables sur le long terme. Et je suis d'accord avec toi que c'est compliqué de l'imposer en fait à l'Inde ou à d'autres pays qui n'ont pas fait les mêmes choses. Néanmoins, si on peut pousser vers un modèle qui leur permette de leur côté de mieux vivre et de vivre plus confortablement en essayant de poser quand même des limites pour éviter qu'ils tombent dans les mêmes écueils que les nôtres, c'est tout le jeu d'équilibriste qui doit être trouvé et tout l'intérêt théorique de ces COP de dire on vous aide à financer quelque chose qui nous permette à tous collectivement de survivre, mais jouer le jeu aussi de l'autre côté parce qu'on a trop merdé avant.
Oui, bien sûr. Après, il faut qu'on joue d'abord le jeu, nous, avant de l'exiger aux autres.
C'est
on peut
bien
pas
le problème.
Exiger aux autres quelque chose qu'on ne fait pas, alors qu'on en a les moyens, je trouve, en tout cas.
Après, tu parlais aussi de l'aspect financier, mais c'est justement le truc le plus important. Et il y a beaucoup de gens qui demandent la suppression de cette, ce qu'on appelle un peu dette verte. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de donner de l'argent, mais souvent, c'est sous forme de prêt que c'est fait auprès de ces pays en développement. C'est-à-dire, ben, à un moment, il va falloir rembourser. Et rembourser à qui ? Rembourser aux pays développés. L'annulation de cette dette permettrait un meilleur financement, et tout comme arrêter de vendre les technologies, mais plutôt les offrir.
Alors c'est là-dessus où il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés par les personnes qui sont contre justement cette notion de juste annuler les dettes et que ça soit pas un prêt mais un don, notamment sur les questions financières. C'est la première crainte, c'est les questions de corruption, de détournement d'argent et de non-avancement sur les différentes questions. Et quelles solutions peuvent être apportées à ça? C'est toute la question qui se pose en fait de dire la responsabilisation des pays en développement et aussi ce cynisme et cette forme de non-confiance qu'ont les pays développés envers les pays en développement.
Je trouve qu'il y a quand même un truc moi qui me donne un peu d'espoir et peut-être à tort, c'est qu'il commence à y avoir des sanctions pour ça, des sanctions pour les pays, notamment la CEDH a récemment sanctionné la Suisse pour un manquement des autorités suisses pour atténuer les effets du changement climatique. C'est un moment isolé, mais c'est en train de se faire et on commence à se dire « Ok, on peut être sanctionné pour un manque d'engagement vis-à-vis de l'écologie ».
Moi, ce serait vraiment quelque chose que je souhaiterais voir dans les prochains 10 ans, qu'il y a vraiment une taxe environnementale sur tous les biens, vu d'une échelle mondiale, que désormais on est de plus en plus taxé sur l'effet que ton produit a sur l'environnement et sur le bien-être mondial.
Le problème de ça, et c'est, on est d'accord, assez souhaitable, mais ça implique d'avoir des institutions en capacité d'imposer ce genre de choses et qui aient la force politique ou régalienne nécessaire pour le faire. À savoir si la Cour européenne des droits de l'homme a pu le faire avec la Suisse, c'est parce qu'il y avait un pouvoir politique fort derrière. Pour l'instant, comme on peut le voir avec la COP, avec l'ONU et d'autres, il n'y a personne d'assez puissant pour imposer ça aux différents États. Puisque les États-Unis, qui sont considérés comme l'État le plus puissant du monde, ne veulent pas suivre ça, il n'y a personne qui est en capacité de les obliger à suivre ça. Pareil pour la Chine, pareil pour même l'Europe dans une moindre mesure, qui est en capacité de les forcer à faire quelque chose.
Puis même dans un exemple qui est plus proche du cas de la Suisse, il y a la France où il y a une requête qui a été formulée pour une condamnation sur les mêmes principes envers la France. Et cette requête a été rejetée par la Cour européenne des droits de l'homme. Ça montre bien que oui, il y a une grosse, grosse empreinte politique. Et même la CEDH n'arrive pas toujours à sanctionner les pays à hauteur de ce qu'elle veut et ce qu'elle devrait faire.
Parce que là, la différence, c'est de savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle peut et ce qu'elle va faire. Justement, par rapport à ce que disait Lison tout à l'heure, et c'est très pertinent, de potentiellement essayer de supprimer cette notion de prêt et peut-être en faire un don, peut-être un don conditionné. Ce serait un don, sauf si l'argent est détourné, si les choses ne sont pas faites, alors ça devient un prêt qui demande remboursement. Mais ça impliquerait une vraie volonté politique de pouvoir appliquer ce genre de choses. Et malheureusement, il y a peu de pays occidentaux qui sont dans cette optique-là, ou même de pays développés qui sont dans cette optique-là, on le voit même ne serait-ce qu'en France, sur sa capacité à faire des prêts ou même des dons aux entreprises, des exonérations fiscales et autres, avec une volonté de créer des emplois, de ne pas détruire des emplois, d'améliorer la transition écologique, et où au final, il y a énormément de promesses, mais suivies de peu d'actes. C'est là où il faudrait que les différents États aient une poigne plus forte et une volonté d'agir ou d'une liberté d'agir beaucoup plus importante.
Est-ce que à partir de ce moment-là, c'est pas aussi à nous de pousser les États à agir de cette façon-là et à être beaucoup plus proactifs au niveau de l'environnement ?
Je pense que ça va être difficile de mettre en place parce que les États ont quand même vraiment une politique nationaliste. On a du mal à penser universellement, à penser aux autres. La question de l'emploi dont tu parlais, on le pense à l'échelle nationale. On a du mal à envisager quelque chose de plus global. Et vraiment, en fait, on ne s'entend vraiment sur de telles choses que sur la question de l'écologie. Parce qu'on a compris, entre guillemets, qu'on est sur une même terre, une même planète. Mais si on ne s'arrête qu'à ça, tout en pensant quand même individuellement, on n'avancera pas.
Mais c'est bien le problème, d'ailleurs. On est sur un monde qui est tellement interconnecté qu'il est compliqué de continuer à garder des politiques qui se font bout de territoire par bout de territoire, même si on peut appeler ça des États ou des unions ou autre chose, puisqu'en fait on a plein d'accords qui font qu'on est censé aller tous dans le même sens, et on trouve toujours le moyen de chacun essayer d'aller dans le sens qui nous arrange sans penser aux autres. Donc il y a vraiment une question d'autocentrisme, voire d'égocentrisme de chaque État, de comment réussir à résoudre le problème, sachant que chacun milite pour ses propres intérêts.
Je trouve même que c'est un peu devenu pire durant les récentes années. Quand je regarde un peu le paysage politique, les populistes, l'extrême droite et tout ça, tous veulent se rediriger envers une vision plus égocentrique et moins altruiste et envers son propre pays. Et ça, je trouve ça assez choquant et assez évident aussi dans la presse.
Alors, à ce niveau-là, on est bien d'accord, mais ça, c'est aussi un peu le côté backlash qu'on peut avoir. Toute action implique une réaction. Et c'est aussi, d'un point de vue optimiste, ce qui montre que les actions avancent et marchent. S'il y a malheureusement un retour des extrêmes droites, s'il y a un retour du masculinisme, s'il y a un retour de pas mal de choses, c'est que en fait les actions qui sont menées dans l'autre sens fonctionnent. C'est une réaction à quelque chose auquel les gens ne sont pas d'accord. S'il y a un retour des nationalistes pollueurs et autocentrés, c'est parce qu'il y a une avancée du tout ce qui est l'universalisme écologiste. Même si c'est pas forcément adapté, et le problème étant que comme on a tous des voix différentes, des façons de faire différentes et des pensées différentes, c'est là où on s'affaiblit par rapport à eux, où il y a une idée commune, la détestation de l'écologie et cette volonté de s'y opposer, ce qui fait que ça les unit énormément. On pouvait parler de Trump, on peut parler de Milei, on peut parler même de Bolsonaro, même s'il est plus là, on peut parler d'Orban, Meloni, même Poutine, enfin, ils sont très nombreux. Ce serait compliqué de tous les citer, mais il y a beaucoup de choses. Et là encore, j'ai cité que les dirigeants des pays très développés ou en cours très avancé de développement.
Pour en revenir à Trump, on peut aussi peut-être mentionner que dès qu'il a été réélu, déjà au long de sa campagne, il a annoncé qu'il allait sortir des accords de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez à propos de sa décision ?
Bah en fait, on se retrouve avec la même configuration qu'aux accords de Paris. Il y avait Trump au pouvoir, Macron était au pouvoir, il y avait un début de populisme qui montait et qui était là assez fort, que ce soit sur le continent européen ou le continent américain. Donc à savoir qu'avec Trump 1, on avait Bolsonaro au Brésil et un appui populiste de plus en plus fort. Et en Europe, on avait le début d'Orban, on avait soit un libéralisme fort, soit un populisme qui guettait. Et là maintenant, pour la COP29, on se retrouve avec un phénomène assez similaire, avec Trump au pouvoir, avec Javier Milei en Argentine, donc le continent, même s'il n'est pas entièrement acquis à ces questions-là, il reste très populiste ou libéral, puisque Trudeau est encore au pouvoir jusqu'à présent, et pareil en Europe, où on a de plus en plus de nationalisme et toujours autant de libéralisme, et pas de réelle position forte de gauche ou écologiste.
Franchement, Trump, moi, c'est pas lui qui me fait peur. C'est les personnes qui l'entourent. Et pour ça, je vais vous donner une citation assez longue d'un type qui s'appelle Lee Zeldin. Et en fait, c'est le directeur de l'Agence états-unienne de protection de l'environnement. Donc normalement, c'est quand même un truc assez bien, assez protecteur. Voici ce qu'il a dit le 12 mars. « Nous enfonçons un poignard droit dans le cœur de la religion du changement climatique afin de faire baisser le coût de la vie des familles américaines, libérer l'énergie américaine, ramener les emplois du secteur automobile aux États-Unis et bien plus encore. » Il employait le terme « religion », de la même façon qu'on employerait le terme « secte » ou « fanatisme ». Il présente l'écologie comme quelque chose de mauvais dans la vie quotidienne des habitants, comme quelque chose qui peut leur pourrir la vie, comme quelque chose qui va les restreindre, comme quelque chose qui va empêcher les États-Unis de grandir.
Et c'est pas que quelque chose de mauvais, mais ça, employer ce terme, c'est même quelque chose de fanatique, de voilà, c'est une secte, c'est quelque chose. Ils se sont fait laver le cerveau, ils savent pas de quoi ils parlent, c'est voilà. Donc c'est aussi cette notion de bah, c'est pas réel et enfin.
C'est surtout ça qui me fait peur en fait, c'est qu'on commence de généraliser, de nier les sciences. Et les experts sont de moins en moins écoutés, de moins en moins entendus, aussi dans la politique, et ça, je trouve ça vraiment très très inquiétant.
Mais en vrai, les experts ne peuvent pas être entendus. Il y a un truc que Trump a fait passer, c'est quand des recherches sont menées, du coup forcément il y a des demandes de financement, les financements sont refusés s'il y a des termes employés comme climat, comme changement climatique, comme émission de gaz à effet de serre. À partir de ce moment-là, s'il n'y a pas financement, il n'y a pas recherche, s'il n'y a pas recherche, il n'y a pas avancée, et tout est figé, tout est gelé, on ne peut plus rien faire.
Alors après, je vais quand même me permettre un petit à la fois bémol et en même temps aparté. Le problème premier, je pense, et malgré tout, c'est notre perte globale de souveraineté au profit des États-Unis. Parce que se dire que l'ensemble de la recherche mondiale sur l'écologie ou l'ensemble des investissements sur ces questions-là doivent absolument reposer sur les États-Unis, c'est que clairement, les États-Unis tiennent le monde dans le creux de leurs mains et c'est là où on manque d'autres puissances fortes, que ce soit l'Europe, que ce soit la Chine, que ce soit n'importe qui, pour être en capacité de s'opposer à ces girouettes que peuvent être les États-Unis, parce qu'au moindre coup de vent, ils peuvent changer de bord, de conviction, et c'est là où il faut qu'on fasse extrêmement attention. Et là où je vais être aussi un peu plus critique par rapport à ce que tu disais juste avant sur les questions religieuses et écologie, c'est qu'en fait, d'un point de vue historique, c'est typiquement la matrice et la façon de penser des États-Unis. Ils ont un rapport à la religion qui est très particulière. Il faut en être conscient, pour eux, tout est religion et tout est lié à la religion. sachant que leur président jure sur la Bible, sachant que la chose qui fait le plus voter chez eux et qui convainc le plus les électeurs, c'est la religion. Tout est question de religion. C'est extrêmement fort. Il y a tout ce côté fort des évangélistes, des protestants, des catholiques. Ils sont vraiment très 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 axés religion et c'est par ce prisme-là qu'ils voient toutes les choses. Donc c'est vraiment pas étonnant, surtout de la part des nationalistes qui ont ce côté religion exacerbé encore plus. Mais c'est vraiment sur ces notions-là qu'il faut comprendre qu'en fait c'est purement une façon de penser d'Américains et qu'on a du mal à concevoir, nous en tant qu'Européens ou en tant qu'autres pays, en fait, qui n'ont pas ce rapport-là à la religion tel que peut l'avoir les États-Unis.
Quel message est-ce que ça envoie à tous les autres pays si le deuxième plus grand émetteur de CO2 sort de l'accord de Paris?
Alors, deuxième?
Le deuxième plus grand pollueur, d'après une statistique de Statista, est les États-Unis avec 12,99% des émissions CO2.
Et qui est le premier?
C'est la Chine, avec 31,5%.
Alors là-dessus, il y a des choses potentiellement à re-questionner, à nuancer. C'est un avis très personnel, mais la question qu'il faut voir aussi, c'est la différence entre les émissions imputées et les émissions imputables. Je ne sais pas si vous voyez la différence.
Mmh.
À savoir que pour l'instant, le CO2 qui est rattaché à un pays, c'est celui qui est produit sur son territoire. Alors qu'en vérité, il y a notamment sur les pays asiatiques ou même africains, une bonne partie de leurs émissions ne leur sont pas réellement imputables. Puisque quand on met ce pourcentage-là de la Chine, combien de ces émissions sont dues à la production de biens qui vont être envoyés aux États-Unis, à l'Europe ou partout ailleurs dans le monde? Est-ce qu'on peut réellement leur faire porter 100% de ces émissions? Et même ne serait-ce que d'un point de vue européen ou autre, se dire qu'on a des économies décarbonées ou des pays totalement décarbonés, simplement parce qu'on a exporté nos émissions ailleurs en les faisant faire par d'autres.
Et puis, quelles sont les émissions réelles? Il y a tout un flou autour de ça. C'est pour ça qu'on parle plutôt des émissions imputées et pas imputables. Parce que calculer les émissions imputables, ce serait un travail monstre et je dirais même impossible. Vu à quel point les pays essayent de cacher ça, de rendre ça assez flou et de le faire oublier.
On est bien d'accord, c'est ça qui rend la chose compliquée, mais c'est aussi là-dessus que revenait mon propos un peu auparavant, de changer la façon de fonctionner de notre société. On ne peut pas rester sur un modèle mondial ou global, justement parce que c'est ce qui pollue le plus, en fait. Aller chercher des produits de l'autre bout du monde pour les faire venir à un endroit, pour que ça soit produit, pour que ça soit renvoyé ailleurs, pour que ça fasse 4 fois le tour du monde avant d'arriver à son point de destination final. Alors que son point de destination final, un coup sur deux, se trouve à être, franchement, c'est presque voisin. On a le cas pour de nombreux pays, pour de nombreux États. Quand certaines matières premières sont produites, par exemple, en Amérique du Sud, sont envoyées en Asie pour être retransformées, pour ensuite être envoyées en Europe ou en Amérique du Nord pour pouvoir être transformées en biens encore plus manufacturés, plus développés, plus poussés, pour retourner en Amérique du Sud, est-ce que ça a vraiment du sens de leur faire faire, encore une fois, qu'elles soient le tour du monde?
Le problème de ça, c'est qu'il faudrait l'arrêter et il faudrait trouver un moyen pour que ce soit beaucoup plus proche. Après, on aura du coup moins de collaboration économique entre les pays et donc moins de stabilité au niveau international. Mais c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut mettre en avant et je pense que pour l'instant, ce serait l'écologie à privilégier.
Eh bien, je ne suis pas forcément d'accord parce que ça ne jouerait pas forcément sur la stabilité internationale. Ça pourrait même faciliter les rapports internationaux et la stabilité des différentes nations. On peut le voir notamment avec Trump et ses notions de droits de douane pour retrouver des économies au plus proche des pays, pour retrouver de l'emploi. Mais en fait, ça peut avoir un aspect écologique et même bénéfique pour la planète si c'est bien fait de relocaliser les industries. Et en fait, là-dessus, on a beaucoup de dissensions qui se font justement à cause de ces questions d'échanges commerciaux. Donc ça ne va pas forcément fondamentalement changer des questions de rapport entre les pays que de changer de modèle social à ce niveau-là, en tout cas à mon avis.
Ce qui a été bien dans ces échanges commerciaux, c'est que ça a créé pas mal de collaboration entre les pays. Moi, j'espère que ça a pu, du coup, plus les pérenniser que vraiment être l'essence même de ces collaborations.
Pas tant, on le voit notamment avec les États-Unis, on le voit avec ce qui a pu se passer avec la Russie, on le voit avec l'Amérique du Sud et l'Afrique. C'est assez compliqué de se baser là-dessus pour avoir un vrai lien entre les pays. Là où les notions diplomatiques, ça doit être vraiment un mix. Et le problème, c'est qu'on s'est trop acharné à se dire c'est l'économie qui permet de faire des accords fiables et tangibles et efficaces. Il ne faut pas que ça soit des symboles ou de la gesticulation, pour reprendre les termes de politique qui ont été sortis assez récemment, parce que la symbolique ne fait pas des alliances, ne fait pas des rapports. Mais il faut aussi se détacher de cet aspect de Eh bien, c'est uniquement le commerce entre deux pays qui est un lien fort et tangible. Il y a d'autres façons de faire des liens, donc à savoir la diplomatie. Ça peut être les échanges de connaissances ou de services. Quand une partie des élites d'un pays étudie dans un autre et que c'est réciproque et que c'est vice-versa, il y a une proximité de fait qui se fait entre ces deux pays parce qu'il y a des gens qui sont là pour maintenir cette stabilité et il y a mille autres façons de créer des liens solides et tangibles entre deux États. C'est là-dessus qu'on devrait s'orienter plutôt que de juste se dire alliance égale commercialisation d'un bien entre deux pays. Puisqu'on peut le voir, c'est excessivement fragile avec notamment ce qui se passe avec les États-Unis et la Chine, ce qui a pu se passer avec le gaz, avec la Russie, où au final on pensait que tout filait bien et en fait pas tant que ça. Et il y a pléthore d'exemples à ce niveau-là. Alors juste avant, on parlait aussi des questions de hard power, mais aussi des questions de soft power, de net power, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ces notions-là, et notamment l'information et ce qu'on fait de l'information. On parle des réseaux sociaux de manière globale, voire même de la presse, des médias, mais il y a d'autres exemples, par exemple celui que va nous donner, disons.
En fait, l'information passe par différents moyens, mais même par les sites officiels. Et c'est là qu'on assiste en fait à un manque d'information, mais plutôt à une suppression d'information. En effet, sur les sites de la Maison Blanche et même du ministère de la Défense, les onglets qui étaient autrefois consacrés à la question environnementale affichent désormais maintenant une erreur 404 quand on clique dessus.
Et ça montre en fait clairement l'opinion de Trump et de son gouvernement. C'est même pas une question de genre on met la poussière sous le tapis. Littéralement, on raye cette mention, on l'efface en la laissant visible en disant ça existe, ou en tout cas c'est là, mais on n'en tiendra pas compte et on ne veut pas en tenir compte, ou on ne veut pas en parler. Juste, on censure la question. Donc c'est encore plus violent que juste avoir totalement enlevé cet onglet. Parce que c'est pas une question de ça disparaît.
Il l'affiche clairement en sortant des accords de Paris et en laissant cette mention-là dans le site officiel du gouvernement.
Mais clairement, et en plus d'avoir traité l'écologie de religion, Liz Hildin, il en a parlé comme d'une arnaque. Il dit « Aujourd'hui, la nouvelle arnaque verte prend fin ». Et c'est la conclusion de tout son discours. Et c'est ce qu'on retrouve en fait avec ça, c'est « Il y a eu ça, en fait on s'est fait avoir et on va complètement changer, on va vous montrer ce que sont les vrais États-Unis, leur puissance ».
Sans prendre en compte l'empreinte écologique et tous les dégâts qu'il peut y avoir.
Ils en ont plus rien à faire. L'argent va primer par-dessus tout. Il y avait des subventions destinées à lutter contre la crise climatique qui ont été supprimées avec l'excuse de « on sait jamais, il y aurait un risque de fraude ».
Alors, il y a énormément de subventions qui ont été supprimées par l'État américain, que ça soit l'aide aux pays en développement, que ça soit cette subvention-là, que ça soit des aides aussi sociales. Beaucoup d'aides sociales ont été supprimées. Et en fait, l'action principale de Trump a été de bloquer l'ensemble des cordons de la bourse, de supprimer tout ce qu'il pouvait supprimer, de casser le plus profondément possible le modèle social américain qui était déjà pas très développé. Et c'est là-dessus où, en fait, ça fait peur à l'ensemble des observateurs internationaux. C'est qu'il y en a à qui ça fait envie, et il y en a qui se disent « il est en train de tout casser, et ça va être très compliqué de le déloger de là et d'en faire quelque chose a posteriori, en fait. »
Je trouve ça très intéressant aussi, surtout si on repart sur Youssel et tout. Mais est-ce qu'on s'éloigne pas un peu de l'écologie ?
Alors, je suis pas forcément d'accord du fait qu'on s'éloigne de l'écologie, parce que malheureusement, et c'est horrible à dire, mais l'écologie est éminemment politique. On parlait des questions de subventions et de financement qui ont été fortement mis sur la table lors de la COP29. Mais en fait, s'il n'y a pas l'argent ou la volonté politique derrière d'évoluer et d'avancer dans le bon sens, il n'y a rien qui n'avance. Rien n'avance, rien ne se fait. Et c'est pour ça que c'est éminemment important de voir qui dirige quoi, qui veut faire quoi et qui veut le faire comment. Parce que à titre individuel, on n'a pas la puissance d'un État pour imposer des normes, pour obliger les entreprises à être un minimum propre ou même obliger les gens à être un minimum responsable. Et c'est là où c'est assez important de savoir ce qui se fait d'un point de vue global et mondial, notamment avec les plus puissantes entreprises.
Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir participé à cette discussion sur la COP29 et la géopolitique sous l'angle de l'écologie. Nous avons parlé de beaucoup de choses très intéressantes, notamment du financement pour les pays en développement, des moyens de punition pour des pays développés qui ne font pas assez pour l'environnement, ou encore de la politique anti-écologique de Trump. De même, beaucoup de questions fondamentales ont été relevées, comme celle de la sobriété contre le technosolutionnisme, ou encore l'importance d'une multitude de moyens de coopération entre les États, autres que l'économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à écouter le premier épisode de Chaud sa mère, si vous ne l'avez pas encore fait, et de nous rejoindre pour nos futurs épisodes. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine !